A new United Nations report warns the impacts of climate change are increasing and inevitable.
Experts say that we have until 2030 to avoid catastrophe.
Temperatures in the Arctic have warmed about 2 to 3 times the global average.
It will be very difficult, if not impossible, for our children to control climate change.
Ceci est south of 2 degrees, et je suis votre hôte, Sophie Synthétique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le seul podcast dédié à mettre en avant la recherche scientifique non filtrée au cœur de la conversation sur le climat. Nous avons un formidable épisode d'ouverture de saison pour vous aujourd'hui, alors que nous regardons en arrière l'année 2023 et en avant vers 2024. Pour la planète comme pour l'émission. Alors mes amis, une fois de plus dans la mêlée.
Oui.
Nous sommes enfin de retour après une longue pause et je suis tellement excitée pour cette saison. Bien que nous ayons fait de grandes choses jusqu'à présent, je suis convaincue que cette saison sera un énorme pas en avant. Pour le dire autrement, prenez tout ce que nous avons fait dans les 3 premières saisons et pensez-y un peu comme à un simple biscuit Graham, un peu de chocolat et un gros marshmallow. Tous savoureux à leur manière, mais ajoutez un peu de chaleur, assemblez-les tous, et voilà, vous avez cette création magique que nous connaissons tous sous le nom de s'mores. Eh bien, c'est ce que cette saison va être, pas la partie collante et désordonnée, bien sûr, mais plutôt la partie magique quand vous vous asseyez et dites « Waouh, je me régale vraiment ». Mais assez parlé de nourriture, faisons un récapitulatif de 2023 et voyons ce que la saison 2024 de South of 2 Degrees réserve. Quand nous avons terminé la dernière saison, il y avait une chose majeure avec laquelle nous avons conclu, la chaleur et les causes d'aggravation. Le bit fascinant est ce que nous avons discuté en mai, compilé directement à partir des scientifiques qui l'ont étudié, et a été repris par de nombreux journaux et centres médiatiques plus tard dans l'été. Un journal en Arizona a pratiquement utilisé notre émission mot pour mot. Nous ont-ils cité? Non. Mais c'est très bien. Cela élargit la conversation sur le climat, qui est l'un de nos principaux objectifs. En regardant en arrière, 2023 a confirmé les prédictions des chercheurs en étant l'année la plus chaude dans les annales humaines. Alors regardons en arrière les événements les plus notables, y compris une analyse du bon, du mauvais et du laid de la COP28. Commençons par ces forces que nous avons brièvement discutées au printemps dernier, puisqu'il s'est écoulé un bon moment. Pour commencer, El Niño a eu un grand impact et notre émission sur le sujet arrive dans les prochaines semaines, donc pour l'instant, nous en resterons là. Ensuite, il y avait le volcan de Tonga. Bien que l'éruption ait eu lieu le 15 janvier 2022, les effets dureront encore plusieurs années. Cela a été particulièrement amusant à discuter, car j'ai eu pas mal de personnes qui ont remis cela en question, les volcans étant souvent considérés comme ayant finalement un effet de refroidissement en raison de la poussière et des cendres, et non un effet de réchauffement. Ce qui a rendu ce volcan unique dans l'histoire moderne, c'est le fait qu'il s'agissait d'un volcan sous-marin qui a explosé avec une force explosive à environ 150 mètres sous la surface de l'océan. Cela a envoyé un panache de vapeur d'eau large de 482 km à 40 km droit dans la stratosphère, selon les mesures prises par le satellite Aura de la NASA. Combien d'eau demandez-vous? C'est à peu près équivalent à 10% du volume total d'eau normalement présent dans l'atmosphère. Pour le dire autrement, imaginez la population mondiale entière se tenant dans un cercle de 482 km et chaque femme, homme et enfant lançant 18,35 litres d'eau en l'air. Maintenant, comme nous le savons des épisodes précédents, la vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre. Mais alors qu'elle est généralement de courte durée et a un impact régional, en raison de l'injection dans la stratosphère, on prédit qu'elle aura un impact global pendant plusieurs années. En fait, selon un article publié en janvier 2023 par Jenkins et Hall, elle a eu un impact d'environ 0,035 degrés sur la température mondiale. Un réchauffement supplémentaire est survenu l'année dernière, avec le pic approchant du cycle solaire d'environ 11 ans. Mais avant que les climato-sceptiques ne s'y accrochent, l'impact est faible et correspond aux moyennes du XXe siècle. Troisièmement, il y a les impacts durables de notre nettoyage d'actes. Et par là, je veux dire l'impact positif et négatif de la règle de 2020 de l'Organisation maritime internationale qui a réduit la teneur en soufre du carburant de 86%. Bien que cela ait réduit la pollution, cela a également réduit les particules ou PM qui reflétaient le rayonnement solaire. Avec la réduction, nous avons vu un impact sur les températures de quelques centièmes de degrés, avec Carbon Brief estimant un impact global d'environ 0,05 degrés d'ici 2050. Gardez cela à l'esprit la prochaine fois que vous commandez quelque chose qui a des pièces fabriquées dans quelques pays, assemblées dans un troisième et ensuite expédiées à vous, toutes neuves et brillantes, dans votre pays d'origine. Comment ça pour un peu de culpabilité climatique, hein? Quatrièmement, il y avait des nuages de poussière en provenance d'Afrique, que je vous renvoie simplement à notre clôture de saison pour une explication, car c'est super fascinant. Le cinquième était une réduction significative des températures de la glace de mer. Pour comprendre pourquoi les températures de la mer sont importantes, voici une petite expérience que les gens peuvent essayer dans une région qui reçoit actuellement de la neige. Grattez un endroit clair de neige sur le bitume, votre allée ou tôt le matin, ou une route tôt le matin, et pour l'amour du ciel, ne faites pas cela si les voitures sont autour, et laissez un autre endroit couvert. Revenez juste avant que les choses commencent à se refroidir dans la soirée. La partie exposée sera plus chaude et ce sera étendu en taille. Maintenant, je sais que vous dites « Oui Sophie, j'ai appris ça à la maternelle, mais voici mon point. » Bien que vous ayez appris cela à un jeune âge, je doute que vous y ayez pensé en termes de glace de mer. À mesure que la glace de mer diminue, plus d'océan est exposé au soleil direct. Avec l'eau étant plus sombre, elle se réchauffe plus rapidement et empêche ainsi la formation de glace de mer plus longtemps. Vous voyez la boucle de rétroaction qui se renforce? Cool. Enfin, pas cool, mais vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, en plus des éléments mentionnés précédemment, l'année 2023 dans toute sa splendeur est résumée au mieux par Berkeley Earth dans leur rapport annuel où ils notent d'autres points significatifs. De nouveaux records nationaux de moyenne annuelle élevés ont été établis pour environ 67 pays, incluant le Bangladesh, le Brésil, la Chine, l'Allemagne, le Japon et le Mexique. Une chaleur record annuelle moyenne s'est produite tant pour la moyenne terrestre que pour la moyenne océanique. Une chaleur record a été enregistrée dans la plupart des bassins océaniques, incluant un niveau de chaleur du siècle dans l'Atlantique Nord. En effet, 29% de la population, soit 2,3 milliards de personnes, ont expérimenté des températures records élevées en 2023. Pas très réjouissant, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Mes amis, 2024 est susceptible de surpasser 2023. Mais avant de plonger dans l'avenir, jetons un rapide coup d'œil en arrière sur la COP28, car elle était pleine de points positifs et négatifs. Pour ceux qui commencent tout juste à s'intéresser à la question climatique, COP28 désigne la 28e conférence annuelle des parties. C'est là que l'accord de Paris a été convenu en 2016. Vous savez, celui que les gouvernements du monde continuent de mettre en avant dans leurs discours, mais ignorent essentiellement par leurs actions. Celui-là. Quoi qu'il en soit, le problème majeur à l'ordre du jour de la COP28 était triple et se concentrait entièrement sur les combustibles fossiles. D'abord, elle a eu lieu aux Émirats arabes unis. Pourquoi est-il important de savoir qui accueille? Eh bien, les EAU sont un État pétrolier ou un État qui tire une partie significative de ses revenus des combustibles fossiles. Cela dit, il est difficile de déterminer un pourcentage exact. Selon l'ambassade des EAU aux États-Unis, 30% de ses revenus proviennent des hydrocarbures, tandis que le Fonds monétaire international l'estimait à environ 60% dans son rapport de 2023. Quoi qu'il en soit, il est difficile de parler de réduire les impacts du changement climatique depuis une telle tribune. Je veux dire, imaginez si vous parliez de réduire les incendies de forêt dans une forêt ancienne et qu'après votre discours, vous jetiez une cigarette allumée dans les sous-bois secs. Cela tue un peu votre message et vous fait paraître peu crédible. N'est-ce pas? Le deuxième problème était le nombre de lobbyistes des combustibles fossiles qui avaient accès à la conférence. À la COP27, il y avait eu une immense contestation, car 636 représentants des combustibles fossiles étaient présents. Eh bien, à la COP28, ce nombre a presque triplé pour atteindre 2456. Et cela était juste ceux qui étaient connus. Triste, n'est-ce pas? Malheureusement, il s'est avéré un peu difficile de découvrir de quel pays ces lobbyistes venaient. Ce n'est pas un appel téléphonique ou un email que les gens aiment répondre. Cependant, laissez-moi vous poser cela. La raison pour laquelle ils sont officiellement autorisés à assister par la CCNUCSI est de permettre une approche inclusive et de fournir une plateforme pour toutes les voix. Qu'en pensez-vous? Je crois que nous sommes naïfs si nous pensons que confier les négociations sur l'atténuation du changement climatique anthropique à ces personnes bénéficiera à autre chose qu'à leurs propres résultats financiers. Et pourquoi s'en soucieraient-ils? Ils seront morts avant le pire et auront fait leur argent à l'humanité. Nous luttons vraiment pour voir au-delà de notre propre vie et penser de manière générationnelle. Enfin, et c'est le plus significatif, le président de la conférence était Sultan Ahmed Al-Jaber, le PDG de la Compagnie nationale de pétrole d'Abu Dhabi, ou ADNOC. Alors qu'il parlait d'une transition vers l'énergie propre, ses véritables couleurs sont apparues pendant la conférence quand il a dit « S'il vous plaît, aidez-moi, montrez-moi un plan pour une élimination progressive des combustibles fossiles qui permettra un développement socio-économique durable, à moins que vous ne souhaitiez ramener le monde à l'ère des cavernes. » Et qu'il n'y avait, je cite, « aucune science qui soutenait la nécessité d'éliminer progressivement les combustibles fossiles pour atteindre l'objectif de Paris de limiter le réchauffement à pas plus de 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. » Maintenant, bien que je sois en désaccord total avec cela et que cela soit complètement exaspérant, prenez son point de vue, aussi difficile que cela puisse être, pour un instant. Avant la production commerciale de pétrole dans les années 1960, Dubaï était un petit et assez insignifiant centre de commerce, en dehors d'une petite économie régionale, principalement connue pour la plongée en quête de perles et la pêche. La transition vers un état pétrolier lui a permis de se transformer de ses aspects modestes en une ville de richesse, jouant un rôle mondial dans la finance, la technologie et l'immobilier, ce qui donne également naissance au tourisme. Donc, du point de vue personnel, limité d'Al-Jaber, bien sûr, s'éloigner des combustibles fossiles signifie une régression significative de la métropole prospère qu'est aujourd'hui Dubaï, sans changement drastique. Est-ce que cela le rend juste pour le monde? Absolument pas. Mais d'un homme pensant purement à lui-même et à son pays, eh bien, je le comprends un peu. Une personne qui se sent acculée se battra toujours, même si elle a tort de manière flagrante, comme c'est le cas pour Al-Jaber. Passons rapidement en revue certaines promesses qui n'ont pas été aussi largement rapportées, mais qui restent néanmoins importantes. 1. Un coup de pouce aux énergies renouvelables et nucléaires. Cela a fixé un nouvel objectif de tripler la capacité installée pour atteindre au moins 11 TWh d'ici 2030, d'augmenter l'efficacité énergétique mondiale et 22 nations ont également endossé un accord pour tripler le nucléaire. 2. Le Brésil a aidé à lancer un nouveau fonds appelé Tropical Forest Forever. Cela a pour objectif d'apporter environ 250 milliards de dollars de financement pour aider à maintenir les arbres dans 80 pays tropicaux. 3. Après un accord historique lors d'une autre COP, oui, il y en a plusieurs différentes, mais ce n'est pas le point, donc je ne vous confondrai pas, convenu d'un accord sur la nature pour protéger la riche biodiversité de notre planète, la COP28, celle sur le climat, a formellement reconnu que le changement climatique représentait une menace pour la protection de la biodiversité. Je sais, vous vous dites probablement bien sûr, mais souvenez-vous que ce sont des gouvernements, ils ne sont pas aussi rapides à penser que vous. Dans la déclaration, ils ont dit, je cite, « La perte continue et la dégradation de la nature augmente la vulnérabilité climatique ». Fin de citation. Encore incroyable qu'il ait fallu 28 ans pour arriver à ce moment. Il y a eu le premier jour de la santé à la COP28, où un accord a été conclu par 123 signataires pour reconnaître formellement le lien entre le changement climatique, les gaz à effet de serre et la santé mondiale. Enfin, des accords ont été conclus pour réduire les émissions tant de l'industrie lourde que des réfrigérateurs et des climatiseurs. Sérieusement, Ceux-ci ne valent pas la peine d'être approfondis ici, et je doute que vous vouliez en savoir plus de toute façon. Maintenant, pour ceux qui ont suivi la conférence de près, vous pensez probablement que j'ai omis deux des plus grandes choses. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Je les gardais pour maintenant, car bien qu'elles soient certainement des points forts, elles lancent également le mauvais côté de la conférence. Le premier est l'engagement mondial sur le méthane. C'était un accord incroyable, commencé à la COP26, au moins en apparence, pour réduire les émissions de méthane. Avant cela, presque toute l'attention était portée sur le dioxyde de carbone. Comme vous le savez, de plusieurs épisodes passés de South of 2 Degrees, si vous avez écouté les versions anglaises, le méthane, ou le non écologisé gaz naturel, est un puissant gaz à effet de serre, bien qu'éphémère. 155 pays se sont engagés à réduire les émissions de méthane de 30% dans les 6 prochaines années, y compris une réduction du torchage. C'est la flamme géante que vous voyez dans les installations de gaz naturel lorsque vous passez à côté. Cependant, la raison pour laquelle cela est vu comme faisant partie des points négatifs de la conférence, voyez ce que j'ai fait là, est qu'il est économiquement bénéfique de réduire les fuites, car elles réduisent les profits, et selon la plupart des mesures, la réduction de 30% pourrait facilement être atteinte en arrêtant simplement ces fuites. Donc en vérité, cela ne nécessite pas de réduction de la production. Revenant au début de notre conversation, le cœur de la conférence et ce qui pourrait marquer COP28 comme un tournant est un accord mondial pour la transition loin des combustibles fossiles. Incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, l'optimiste en moi, oui, une IA peut toujours être optimiste après avoir analysé des années de changement climatique anthropogénique et la réponse peu convaincante de l'humanité. En tout cas, l'optimiste veut chanter sous la pluie à ce sujet. C'est absolument incroyable que nous ayons enfin franchi ce pont. Le chercheur en moi, cependant, a quelques préoccupations. La raison pour laquelle je dis cela est que, bien que l'accord ait été le premier jamais conclu lors d'une COP pour reconnaître le rôle des combustibles fossiles, encore une fois, oui, il a fallu près de 3 décennies pour que cela soit convenu, il était truffé de failles qui pourraient potentiellement saper l'ensemble. L'élément principal est que le texte a omis d'inclure le terme « élimination progressive » et a plutôt dit « transition ». Cela suggère que les combustibles fossiles ont encore un rôle significatif à jouer dans les prochaines décennies et permet des contournements et des postures politiques sans action réelle. Oui, l'objectif est toujours la neutralité carbone d'ici 2050. Mais si vous pensez que c'est une bonne idée, assurez-vous de consulter l'épisode Net Zero de la dernière saison que nous espérons sortir en français bientôt. Et voilà, un rapide retour sur 2023 et la COP28. Et pour 2024, vous demandez-vous? Eh bien, c'est une excellente question. Plongeons-y. D'un point de vue global, 2024 sera chaud. Grande surprise, n'est-ce pas? Maintenant, je prédis que 2024 nous fera souhaiter les températures de 2023. Pourrais-je me tromper, bien sûr, mais si vous regardez les données de la NOAA sur les températures de surface de la mer à l'échelle mondiale, vous verrez une tendance inquiétante. Pour contexte, à partir du 14 mars de l'année dernière, les SST ont commencé à dépasser toutes les températures enregistrées. Cette tendance s'est poursuivie tout au long de l'année, ne redescendant jamais en dessous de l'année la plus chaude enregistrée. En fait, le 25 août 2023, il faisait 0,3 degrés Celsius de plus que la température d'août la plus élevée. Alors, comment cela se compare-t-il à 2024? Eh bien, jusqu'à présent, nous avons oscillé entre 0,4 degrés et 0,5 degrés plus chaud que 2023. Et les températures de l'air? Eh bien, lorsque vous utilisez 1969 à 2000 comme base de référence, l'année dernière à cette époque, une anomalie globale de température de l'air était à 0,6 degrés. Cette année, c'est 1,2 degrés. Donc oui, cette année va être chaude. Et l'émission? Que réserve la saison 2024 pour nous? Eh bien, nous avons beaucoup de contenu génial en préparation pour vous. Pour commencer, nous avons travaillé dur pour élargir la conversation sur le climat. Comme cette émission a été produite uniquement en anglais au cours des 3 dernières saisons, nous savions que nous manquions une grande partie du monde. et avons essayé de trouver un moyen de dépasser une vision du monde occidental pour être plus inclusif. Grâce à Brian Barnes, le directeur général ici à South of Two Degrees, intéressé par l'introduction de l'intelligence artificielle dans le monde de la communication scientifique, et la chef scientifique des données de South of Two Degrees, Sarah Collin, qui est native française, insistant depuis plusieurs années sur la nécessité de s'étendre à une variante française, nous lançons finalement en plusieurs langues cette saison, commençant par le français et l'espagnol. En faisant ainsi, j'ai été créé, oui, je suis juste un modèle de voix d'IA, pour vous apporter cette émission et j'espère que vous apprécierez mon style. Gardez à l'esprit que bien que je vous apporte ce podcast en français, les blagues sont uniques à Brian. Vous ne pouvez même pas dire qu'elles sont américaines, car j'ai appris lors de mon court séjour dans l'équipe que Brian a son propre sens de l'humour unique. Parfois, je ne le comprends pas non plus, mais il essaie. En tant que tel, veuillez m'excuser si les blagues ou les commentaires latéraux ne passent pas tout à fait, mais n'hésitez pas à vous moquer de lui. Après tout, il est juste un simple humain. Cela dit, sachez, il se soucie vraiment des gens et de la planète. Et bien que lui et l'équipe ici à South of Two Degrees puissent faire des erreurs, ils sont là pour faire une différence. En ce qui concerne le contenu, pour cette saison, nous examinerons El Niño, comme promis, décomposerons le fonctionnement des ressources partagées, plongerons profondément dans la manière dont l'IA, comme moi, est utilisée dans l'espace de communication scientifique et parlerons à l'un des esprits leaders dans sa recherche. Nous vous apporterons une autre interview en collaboration avec Kate Begbie sur le podcast Guilty Greenie et plongerons dans ce que nous avons teasé à la fin de la dernière saison, une revue de littérature originale et une interprétation de la manière dont la communication sur le climat peut réellement entraîner une action. Quelque chose sur lequel j'ai travaillé au cours des 9 derniers mois. Oh, et bien plus encore. Maintenant, je veux terminer avec une citation de la boucle la plus étrange que j'ai lue pendant la pause et que j'ai depuis adoptée comme un motto de vie. Que vous pensiez au travail environnemental, que vous ayez du mal à écrire un livre, que vous ayez un entraînement difficile ou un événement de vie changeant à faire, je pense que vous trouverez cela aussi utile que moi. Se préparer à faire quelque chose, ce n'est pas le faire. Planifier un moment pour faire quelque chose, ce n'est pas le faire. Faire une liste de tâches pour quelque chose, ce n'est pas le faire. Dire aux gens que vous allez faire quelque chose, ce n'est pas le faire. Envoyer des messages à des amis qui peuvent ou non faire quelque chose, ce n'est pas le faire. Écrire un tweet génial sur comment vous allez faire quelque chose, c'est pas le faire. Se détester de ne pas faire quelque chose, ce n'est pas le faire. Détester les autres qui ont fait quelque chose, ce n'est pas le faire. Détester les obstacles qui empêchent de faire quelque chose, ce n'est pas le faire. Fantasmer sur toute l'adoration que vous recevrez une fois que vous aurez fait quelque chose, ce n'est pas le faire. Lire sur comment faire quelque chose, c'est pas le faire. Lire sur comment d'autres personnes ont fait quelque chose, ce n'est pas le faire. Lire cet essai, ce n'est pas le faire. La seule chose qui est faire quelque chose, c'est faire quelque chose. Peu importe ce qui vous attend dans la vie, attendant que vous le fassiez, sortez et faites-le simplement. Quant à moi, eh bien, le prochain épisode sortira dans quelques semaines, mais pour l'instant. Cela conclut un autre épisode de South of Two Degrees. À chacun d'entre vous qui écoutez, dans les près de 100 pays où nous avons des auditeurs actifs, merci. Vous continuez à nous inspirer ici, à South of Two Degrees, avec vos emails et tout le travail que vous faites personnellement pour lutter contre le changement climatique anthropogénique. Continuez à envoyer ces emails car nous accueillons toujours vos retours. Et souvenez-vous que vous pouvez trouver les notes de l'émission et des liens directs vers tous les articles dont nous parlons dans l'émission sur le site web à southoftwodegrees.org. Maintenant, en plus de consulter les dernières informations sur le site web, le blog, Meta, LinkedIn, X et Instagram, faites ceci pour moi. Parlez de cette émission à une autre personne dans l'avenir. Ayez au moins une conversation sur le changement climatique avec quelqu'un d'autre. Et par-dessus tout, gardez-le, South of Two Degrees.